J'aimerais vous proposer ce soir une réflexion sur l'effort sage. Parce que c'est quelque chose que nous employons beaucoup dans l'exercice de la méditation. Il faut du courage pour méditer. Et l'effort, c'est quelque chose qui s'installe peu à peu dans son côté sage ou juste. Le terme samma est très très intéressant. Ça veut dire qui unifie, mais ça veut aussi dire qui abandonne la relation. Donc nous cherchons à nous unifier, ça c'est le côté lié au moi. Mais pour abandonner l'expérience, abandonner la relation. C'est pour ça que la méditation, quand Ajahn Chah dit il vaut mieux mourir avant d'être mort, il pointe vraiment à cette aspiration, au fond, à lâcher prise du monde. Mais dans un premier temps, nous allons prendre la signification, je dirais, liée à la vie, qui est l'unification. C'est un effort qui vise à unifier. Lorsque nous méditons, nous voyons bien que nous sommes en chemin et que le chemin a différents paysages. Et les paysages sont très très divers. Que ce soit au niveau physique, le corps peut être très bien posé, tranquille, et tout à coup il a mal, l'agitation physique revient et ça devient très douloureux. Que ce soit au niveau psychique, lorsqu'il y a de la réactivité, que l'énergie dans l'instant est difficile à accepter ou à intégrer ou même à nommer, qu'il y a de la confusion. Et spirituellement, quelquefois je suis facilement là, la présence est aisée, quelquefois, oh là là. Les obstacles sont massifs. Et à travers ces changements de paysage, l'effort change. Et le Bouddha a parlé de quatre sortes d'efforts, selon l'expérience. Et on pourrait dire que ce sont les efforts du début. Au début, nous mettons beaucoup en place ces quatre efforts. Et le premier effort, c'est celui que nous faisons lorsque l'expérience est bonne, qu'elle est bien. Et naturellement, l'esprit va avoir tendance à vouloir maintenir, à vouloir garder, à rester dans ce qui est bénéfique. Et c'est important d'apprendre quand c'est bon à vraiment goûter, à apprécier pleinement. Quelquefois, je me souviens en retraite, quand c'était vraiment bon, j'avais un petit doute lié à l'attachement. Est-ce que je peux vraiment goûter pleinement? Peu importe, soyez attaché, mais goûtez vraiment. C'est le premier effort. Et d'une certaine manière, c'est un repos. Ça va changer, mais juste maintenant, c'est bon. Je peux goûter pleinement. Je peux me reposer avec l'expérience. Le deuxième effort, c'est celui qui cherche à mettre en place ce qui est bénéfique. Nous cherchons à développer la concentration, la pleine conscience, des qualités de calme, d'équanimité. quand nous entendons des concepts qui vont dans la direction de ce vers quoi nous voulons aller, nous cherchons à les développer. Il y a un élan. Et cet élan se lie pas seulement à l'exercice de la méditation, aussi, mais au niveau éthique également, je cherche à installer ce qui est bénéfique au niveau interrelationnel. Et on peut sentir cet élan. Quelquefois, j'aurais envie de faire quelque chose d'autre, mais il y a cette sagesse, de cet effort sage qui fait que je sais renoncer, que je sais aller vers ce que je trouve bon pour moi. Et au niveau de la sagesse aussi, peu à peu, je lâche ce qui est trop tendu au niveau mental, tout ce que je dois contrôler. Peu à peu, je me détends, je prends ce qui vient, la confiance s'installe. Et je peux sentir cet élan vers la confiance. Le troisième effort, c'est celui qui consiste à éviter les états non bénéfiques qui ne sont pas encore là. Personne n'a d'élan pour que les obstacles viennent. Et même, j'essaye plutôt de faire qu'ils restent à distance. Et nous pouvons voir que nous faisons ça et que c'est juste de le faire. Ça ne veut pas dire que l'effort n'est pas sage. Je viens et j'essaye d'être calme, d'avoir l'esprit clair et d'éviter que le corps soit agité, l'esprit confus. Ça ne veut pas dire que je ne crée pas ce qui est douloureux et non bénéfique. Je le fais tout de même. Par mes réactivités, par les pensées obsessionnelles, c'est quand même moi qui les crée. Mais je peux sentir que là, je ne veux pas aller. Et puis, le quatrième effort, c'est celui qui consiste à chercher à dépasser ou à transformer les états non bénéfiques ou les obstacles lorsqu'ils ont émergé. Et c'est un effort qui est parfaitement sage. Et là, l'investigation peut venir. Ah, il y a l'agitation, qu'est-ce que je pourrais faire? Ou le doute. Et bien sûr, pour pouvoir chercher à transformer ou à dépasser les obstacles, il faut d'abord les voir. Les obstacles sont certainement désagréables. Ils créent certainement un mal-être ou un malaise dans le corps. Mais pourtant, c'est une bénédiction. C'est un effort sage que de chercher comment transformer et dépasser les obstacles. Et s'ils ne sont pas là, je ne peux pas mettre en place cet effort sage là. Et je peux voir comment les obstacles ou les états non bénéfiques impliquent des constructions, que les constructions mentales, hein, des fabrications mentales, des pensées, comment les pensées reconditionnent l'obstacle ou l'émotion. Et peu à peu, nous apprenons comment faire. Et une clé, c'est d'arrêter de fonctionner en termes de ça ou ça. Samma, ce qui unifie, c'est l'effort qui essaye plutôt de fonctionner en termes de ça et ça. Il peut y avoir l'agitation, mais je peux quand même être là, avec le corps présent. Il peut y avoir le doute, mais je peux quand même être en pleine conscience. Ah, c'est le doute. Il peut y avoir l'aversion, et je peux m'ouvrir à elle. Je ne me laisse pas... Je ne vais pas dans l'aversion et après dans autre chose. Il y a l'aversion avec la conscience de l'objet, ici et maintenant. Lorsque nous travaillons ces obstacles, que nous ayons l'impression d'être dans la cible ou non, le dharma s'approfondit à l'intérieur du corps et de l'esprit. Il y a quelque chose qui fait que lorsque je manifeste mon intention par l'acte méditatif, la conscience va naturellement vers l'ouverture et vers la lumière. Et lorsque je me sens perdu, submergé, dépassé, pas de problème, pas de drame. Ah ouais, je suis totalement dépassé, perdu, submergé, découragé, affreux, horrible. Et le dharma fait tout de même son œuvre à l'intérieur. Et quelquefois mieux que quand je suis tellement sûr que je fais bien. Et qu'il y a un grand orgueil ou un grand attachement inconscient. C'est pour ça qu'on dit que l'aiguillon qui mène à la libération, c'est l'aiguillon de la souffrance. Quand ça fait mal, le travail se fait. Et souvent, quand j'ai mal, je mets plus d'énergie à chercher la libération que quand tout va bien. L'effort sage me permet de voir de plus en plus les stratégies qui sont les miennes et qui changent, ça change aussi. Je peux commencer à voir combien je focalise beaucoup sur ce qui ne va pas, ou au contraire combien je ne veux pas voir ce qui ne va pas, ou bien comment j'ai tendance à mettre la faute sur la situation ou sur l'autre, ou plutôt sur moi. Comment je prétends parfois, ou que j'espère, ou que je contrôle, ou que je me complais, ou que je rigole, mais d'une manière, je rigole un peu de tout, ou comment j'ai toujours envie d'aider. Et on a tous nos stratégies. Et apprendre à les voir, c'est s'en libérer. Le but n'est pas de ne pas les avoir. On n'aimerait pas être tous pareils. Le but, c'est pas qu'il y ait que des gens merveilleux. Non, c'est que la conscience soit là pour accompagner cette complexité de la vie. Donc, nous pouvons goûter et tendre vers ce qui est bon et éviter, soulager ou endurer ce qui est moins bon. Voilà, ça se fait, on le fait. D'une certaine manière, l'effort sage, il consiste à ici et maintenant goûter, être dans l'élan, chercher à éviter ou chercher comment inclure ce qui est négatif ou chercher comment transformer. Mais ce que j'ai dans l'instant, l'énergie qui émerge, Ça ne me concerne pas. Elle émerge. Ce qui me concerne, c'est ce que j'en fais. Qu'est-ce que je fais de ça? Mais ce qui émerge, on peut lâcher. La chance, la malchance, c'est du karma. Qu'est-ce que je veux me tendre contre mon karma? Mais je peux prendre ma responsabilité et en faire quelque chose de riche. Et je peux voir comment je me mets en réactivité. Et quand je suis en réactivité, c'est qu'il y a intérieurement une tendance à trouver que ça ne va pas comme ça, que l'autre devrait. Comme fait l'autre, non, ça ne va pas. Ou que je devrais. C'est l'ignorance. Quand il y a jugement, comparaison, le sens de... le désir de reconnaissance, d'injustice, une opinion, j'ai une opinion sur les choses, c'est l'ignorance à l'œuvre. Je vous lis Comte Sponville. Il dit « Que dois-je faire ?» et non pas « Que doivent faire les autres ?» C'est ce qui distingue la morale du moralisme. La morale n'est jamais pour le voisin. Celui qui s'occupe des devoirs du voisin n'est pas moral, il est moralisateur. Quelle espèce plus désagréable, quel discours plus vain. La morale n'est légitime qu'à la première personne. Dire à quelqu'un « tu dois être généreux », ce n'est pas faire preuve de générosité. Lui dire « tu dois être courageux », ce n'est pas faire preuve de courage. La morale ne vaut que pour soi. Les devoirs ne valent que pour soi. Pour les autres, la miséricorde et le droit suffisent. Prendre sa responsabilité et laisser la responsabilité aux autres. Là, je suis dans l'effort sage. Mais quand je veux imposer l'effort à l'autre ou quand je pense savoir quel est le bon effort pour l'autre, je peux le lui partager. Mais que j'en fasse moi un problème pour lui, c'est juste l'ignorance à l'œuvre. Et ce qui est derrière, c'est cette peur de ne pas être assez, que l'autre ne soit pas assez, qu'il ne soit pas suffisamment fort ou aimé, qu'il ne se sente pas suffisamment aimé, que je ne me sente pas suffisamment aimé. Là, je lis la biographie de Gurdjieff et puis Gurdjieff appelle tous ses disciples des idiots. Puis je trouve ça super parce que c'est vrai. C'est vrai que qu'est-ce qui nous pousse dans cette quête? C'est ce sentiment de ne pas être assez. Je ne suis pas assez. Alors que ben, tout est déjà là. Nous sommes déjà aimés de toute éternité. Là, ce qui monte en moi, c'est ce... J'ai vécu une expérience très belle il y a très longtemps. Très triste, mais très belle, avec une amie qui était très malade, qui était au bout de sa vie. C'était le dernier soir de sa vie. Et puis on était avec ma sœur, on l'accompagnait. Ma sœur était d'un côté, j'étais de l'autre. Elle était à l'hôpital. Et puis... il y avait du sang qui coulait, j'essuyais le sang, on était avec elle, c'était doux, c'était tendre. Et puis à un moment donné, elle a dit, puis on avait fait venir quelqu'un, ça faisait longtemps qu'on était là, on avait fait venir quelqu'un à minuit pour venir la veiller. Et puis à un moment donné, elle nous a dit, Oh, là, il faut faire venir l'infirmière, il faut enlever tout, la morphine, les médicaments, tout ça, je ne veux plus rien. Alors, on est allé chercher l'infirmière et puis on a tout enlevé. Et c'était intéressant, c'était fort, c'était beau, parce que dans la salle, dans la chambre, c'est devenu comme transparent. Elle ne voulait plus qu'on la touche, c'est elle qui nous touchait. Et puis, elle était ailleurs, elle était au-delà, mais consciente. Et puis je sentais, moi je me suis mise à méditer, puis je sentais qu'elle essayait de me faire aller là où elle était. Je ne pouvais pas y aller, je devais rester un petit peu en delà. Et ça a duré longtemps, très longtemps. Elle faisait de l'eurythmie aussi, alors hein, avec ses pieds, comme elle pouvait, elle essayait de faire le « et » le « ah ». C'était fort. Et puis au bout de quelques heures, et puis on a dit au gars de partir, là à minuit, il était fâché. Et puis au bout de quelques heures, elle a voulu qu'on remette tout. Alors j'allais chercher l'infirmière, on a tout remis. Puis je suis allée vers elle, puis je lui ai dit, mais... Parce qu'elle avait fait une fois une retraite d'une semaine de méditation, mais elle n'avait jamais repris, elle n'aimait pas ça. Mais avant sa mort, elle a pas mal pratiqué. Et puis je vais vers elle, puis je lui ai dit, mais tu vois, toi qui disais toujours que tu n'avais pas... Je ne savais pas comment lui dire que tu n'avais pas la foi. Et puis elle m'a dit, mais Anne, tout le monde a la foi, mais on ne le sait pas. C'était magnifique. Elle a fait un beau cadeau, là. Nous ne le savons pas, ce que nous sommes déjà. Nous avons déjà tout ça en nous et nous ne le savons pas. Et tout l'exercice de la méditation est là pour dévoiler ce qui voile cette unification fondamentale. Et alors, lorsque par la méditation nous travaillons ces quatre efforts courageusement, eh bien... Le moi commence à lâcher son jeu lié au j'aime, je n'aime pas, à la croyance dans ce monde. Et nous pouvons entrer dans un autre effort, qui est le non-effort. C'est Annick de Souzenel qui dit « Lorsque nous naissons sur cette terre, nous tombons en exil. » Nous sommes comme en exil sur cette terre. En exil de ce qui est notre être essentiel. De ce qui est cette totalité à laquelle nous aspirons. Et au fond, tous nos efforts sont là pour le retrouver. Et c'est intéressant de voir comment, de voir quel est le système conceptuel, le vécu de l'adulte par rapport à celui de l'enfant. On dit que la méditation, c'est retrouver the beginner's mind, l'âme d'enfant. Et c'est vrai que l'adulte, il est sérieux, il est assuré au maximum, il croit à son jeu du Monopoly, il y croit. L'enfant, il y joue, et puis après, il prend un autre jeu. Et avec le non-effort, quelque chose fait que nous savons que nous sommes dans un jeu. Et la pensée lâche l'intérêt pour le monde pour devenir beaucoup plus intéressée par le lâcher-prise du monde. C'est la qualité d'investigation. Avec le non-effort, nous ne sommes plus tellement dans le côté, le mot samma pali qui veut dire qui unifie. Avec le non-effort, nous sommes beaucoup plus dans le côté qui abandonne la relation. Nous abandonnons la relation à quoi que ce soit. Pour juste être ouvert et dire, mais qu'est-ce qui vient ? Qu'est-ce qui vient ? Le non-effort, c'est un effort teinté de sagesse où nous sommes déjà beaucoup moins dans l'avoir et beaucoup plus dans l'être, et où nous savons la pleine conscience n'est rien qu'un facteur de l'esprit qui arrive et passe. Nous allons avoir à lâcher la conscience au moment de la mort. Pour trouver une conscience qui n'est pas individualisée, qui est large, qui est ouverte, qui est totale. Donc au lieu de faire toujours un effort de pleine conscience, il y a juste un souvenir d'être là. Et un accueil du Dharma simple, un laisser-faire du Dharma dans le corps et l'esprit. Avec les quatre premiers efforts, nous tendons vers l'unification. Et quand cette unification commence à être perçue, plusieurs d'entre vous, tout le monde, connaît cette expérience une fois ou l'autre, l'abandon devient possible. Et c'est là que nous sentons vraiment à quel point le moi n'a aucun pouvoir, si ce n'est celui de créer la souffrance, ce qui n'est pas rien. Et combien le non-moi est puissant. Combien le non-moi est ce qui permet la chose la plus délicieuse au monde, c'est l'abandon. Toutes nos peurs, nos rages, nos frustrations, nos tristesses, nos confusions sont créées par l'ignorance, par le sens du moi, le sens du moi qui se croit tout puissant, qui croit en son pouvoir. Donc avec le non-effort, la pleine conscience se développe, elle s'apprivoise, la concentration s'approfondit, et une part de l'effort sage très importante dans l'exercice de la méditation, c'est de savoir employer la concentration où je focalise l'esprit sur un point, où je reste seulement avec la respiration, ça peut être seulement avec les sons ou seulement avec mes paroles de métta, mais je focalise. Dans certaines traditions, on emploie un objet, une bougie ou un mantra. Et puis, quand il s'agit d'ouvrir à la pleine conscience. Et il y a un lien qui est très très subtil entre les deux. Pour que la pleine conscience puisse vraiment agir, la concentration doit être développée. La pleine conscience, au bout d'un moment, même avec beaucoup de pratique, devient un peu floppy-floppa. Je suis là, mais enfin, vaguement. Et quand je vous parle de cette intelligence intuitive, je peux apprendre à sentir, ah maintenant, j'ai vraiment besoin de concentration. Et pendant toute une heure, quelquefois plus longtemps, je fais que de la concentration. Et alors, ça fortifie quelque chose dans l'esprit. Et après, quand j'ouvre à la pleine conscience, il y a une compétence qui est, je sens, je suis dans la cible. Là, c'est dans la cible. Avec l'exercice de la méditation et l'exercice de la concentration, la L'approfondissement se fait à l'effort de concentration progressivement. Et d'abord, nous avons beaucoup à lutter avec le fait d'être là, de repartir, de revenir, de repartir. Et c'est bon, c'est juste. Et nous pouvons le faire de manière tendre et gratuite. Tranquille, ça part, je reviens. Je me réjouis et je goûte quand je suis là. Quand je suis loin. Quand je reviens, je me souviens que j'étais loin. C'est pas là que je veux aller. Je peux savoir que c'est pas là que je veux aller. Je veux développer la présence et je reviens. Et ce travail-là demande du courage parce que il est beaucoup lié au j'aime, je n'aime pas. Il y a beaucoup d'obstacles à rencontrer. J'aime bien Thomas Merton quand il dit « Le courage, ça va, ça vient, tiens bon jusqu'à la prochaine livraison. » Et bien sûr, la respiration est l'objet de l'attention, mais elle peut être plus ou moins libre, plus ou moins contrôlée. Quelque chose est fastidieux. L'effort est fastidieux. Et à un moment donné, l'effort devient plus un souvenir qu'un effort. Ce sens du bien et du mal, cette attirance pour ce que j'aime, ce que je n'aime pas, diminue. La respiration s'installe très naturellement, le corps est posé, les pensées ne sont pas gênantes, s'il y en a, elles sont juste reconnues. Et c'est cette pratique où quelque chose est sans effort et la conscience commence à pouvoir être intérieure et extérieure. Elle inclut. Et quand je reste avec cette stabilité de conscience, un apaisement profond émerge. Une tranquillité puissante. J'ai l'impression que cette tranquillité est indestructible et quelque chose est frais. Et nous pouvons goûter. Et j'aime bien dans les écrits du Bouddha, quand il décrit ces fruits de l'exercice, de la méditation, il ajoute toujours « Mais la sensation de plaisir qui émergea de l'exercice n'envahit pas mon esprit et ne s'agrippa pas. » La qualité d'équanimité est là. Cette attitude de non-effort, de confiance, qu'est-ce qui va venir? Et ça change, ça change. Parce que les énergies douloureuses ne viennent plus uniquement quand elles n'ont plus aucun pouvoir sur le corps et l'esprit. Donc qu'elles viennent ou qu'elles ne viennent pas, peu importe. Et puis, ce qui émerge ensuite, c'est cette intensité de plaisir corporel et psychique. Il y a des intensités dans l'exercice de la méditation au niveau concentration qui peuvent être très très fortes et qui sont décrites comme des énergies de lumière ou des intensités vibratoires. C'est pas quelque chose que nous avons à rechercher, mais si elles se passent, elles se passent. Je peux les goûter, vraiment, pleinement. Et si je m'y attache, je crée la souffrance, ça fait rien, je crée la souffrance un petit moment, après ça passe. Mais c'est important de savoir que chaque fois que je m'agrippe, l'ignorance est de nouveau là. Donc l'effort juste, il est quelquefois lié au moi qui veut, c'est juste, et quelquefois il est lié plutôt à cet abandon de toute relation et à cette curiosité. Ah, il y a celle-là qui vient, ah, puis celle-ci, ah, et celle-là. Et pourquoi est-ce que cette qualité d'équanimité émerge? C'est vraiment parce que j'ai fait les quatre premiers efforts, parce que j'ai accepté, quand l'énergie négative arrive, de lui faire l'espace, l'avoir, observer comment elle a émergé. Ok, elle est là, je la ressens vraiment, je l'accepte, si possible je fais plus que l'accepter, je m'abandonne, je l'aime, bien sûr avec l'intention de la dépasser, mais en sachant que c'est par la pleine conscience que les choses lâchent. J'aime Saint Paul quand il dit « on peut tout dévoiler, en l'exposant à la lumière de la conscience. Et ce qui est ainsi exposé devient lui-même lumière. » Les énergies de l'ombre se transforment en lumière, perdent leur impact négatif parce que je les expose, parce que j'accepte de les voir. C'est basique, mais on peut le répéter parce que nous sommes vérifiés toujours plus profondément. Donc on a toujours besoin de le re-entendre parce qu'il y en a de nouveau une qui nous fait peur. La pleine conscience, ça. Là, j'avais écrit une fois. Parfois, nous sommes en quête de plaisir, de belles relations, de profondes expériences spirituelles, en quête de libération. Nous sommes des mendiants de bonheur, parfois. Et parfois, c'est juste bon de sentir le soleil sur la peau, de s'asseoir, de manger, de laver son assiette, juste bon d'être. Nous sommes des seigneurs de simplicité, parfois. Et toujours, l'esprit le sait. Il n'y a pas une chose meilleure qu'une autre dans l'exercice de la méditation. Mais si je peux toujours le savoir, je fais vraiment ma part. Donc le dernier effort, ce non-effort, c'est, on pourrait dire, la conscience qui se connaît elle-même. Je sais que je sais. Et quand je questionne est-ce que je suis là, forcément j'y suis. Peu importe avec quoi. C'est un détachement du monde et puis une nourriture liée à l'universel. Il n'y a pas besoin de le chercher ou de le créer. Donc, si vous pouvez laisser faire, quel que soit l'exercice que je vous propose, si vous pouvez juste être là et laisser faire, en étant vraiment là, en étant là avec avec clarté, avec une conscience. Nous savons bien ce que c'est qu'une conscience, une présence. Si je suis vraiment là en présence, je peux laisser faire le dharma. Je peux vraiment ne rien faire. L'art de la méditation, c'est de savoir quand il faut donner un effort conscient en employant le moi et quand c'est pas vraiment utile. je peux laisser faire et je donne du soin, de la sensibilité, de l'altruisme à moi. Je suis altruiste avec moi-même, plutôt que dur. Je crois qu'il y a bien des choses que je me fais à moi-même que je ne ferai pas à l'autre. Et lorsque l'engagement est lié à l'effort sage, nous savons ne pas forcer et en même temps nous gardons en conscience notre intention qu'au fond je le fais pour l'autre. C'est ça qui donne la vraie plénitude à la vie, je le fais pour l'autre. Et je le fais pour l'autre, pas par sacrifice ou résignation ou habitude, mais par élan. Parce que c'est au fond un bon égoïsme. J'aimerais vous lire une parole de Maître Eckhart, que je trouve tellement intéressante. J'aime beaucoup quand dans d'autres traditions, on retrouve exactement ce que dit le Bouddha. Ça, c'est vraiment la preuve que la pensée vient après l'expérience. L'expérience spirituelle de transcendance, c'est une chose que tout le monde vit. Après, suivant le moment, l'endroit, ça se dit complètement autrement. Et là, Maître Eckhart dit... Les maîtres louent grandement l'amour, comme le fait saint Paul quand il dit « Quelque œuvre que j'accomplisse, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. » Quant à moi, je loue le détachement plus que tout amour. D'abord pour cette raison, c'est que l'amour, ce que l'amour a de meilleur, c'est qu'il me force à aimer Dieu. Alors que le détachement force Dieu à m'aimer. Or, il est bien plus noble de forcer Dieu à venir à moi que de me forcer à aller à Dieu. Parce que Dieu peut plus intimement s'insérer en moi et mieux s'unir à moi que je ne puis m'unir à Dieu. Et si vous mettez à la place de Dieu l'universel ou le dharma, c'est tellement clair que quand moi je veux la pleine conscience, le dharma, la vérité, la sagesse et tout, c'est une chose, l'amour. Mais quand moi je ne veux rien et que je laisse la sagesse, la pleine conscience, l'unification, l'amour et tout venir en moi, waouh! Je vais finir avec une petite parole que j'ai écrite une fois. Je n'ai rien à faire. La vérité est là quoi que je fasse. Si je la sens en moi ou si je l'oublie, si je me sens en prison ou si je suis dans la plénitude, la confiance, c'est ce souvenir. Je n'ai pas besoin de créer la vérité. Elle ne peut pas ne pas être là. Elle est là toujours, malgré moi.